Frères et sœurs, dans cette fête de l'Ascension, il y a beaucoup de choses. Il y a tout simplement le déjà, l'événement lui-même. Et on imagine bien comment les apôtres, rentrant chez eux, sont groggy de ce à quoi ils viennent d'assister. Et à la fois mi figue mi raisin, c'est-à-dire à la fois émus, joyeux, troublés, tout cela à la fois dans leur cœur, avec Jésus qui disparaît à leurs yeux, qui monte au ciel, et cette rencontre, cette parole des anges, qui est là comme pour les affermir, mais aussi les secouer en quelque sorte et les renvoyer à leur mission. Mais il y a dans cet événement, au-delà de l'événement singulier qui concerne les protagonistes ici, il y a quelque chose qui nous invite à contempler, peut-être mieux comprendre ce que le Christ Jésus a vécu parmi nous. Il ne pouvait pas rester au milieu de nous. Peut-être certains d'entre vous sont amateurs du Seigneur des Anneaux et vous vous souvenez ces dernières scènes où finalement Frodon et la communauté de l'anneau ne peut plus en quelque sorte vivre sur la terre du milieu. Ils sont passés par un tel feu, ils ont été passés au crible. Il y a quelque chose dans ce qu'ils ont vécu qui a été d'une telle puissance et d'une telle intensité qu'ils sont marqués à jamais. Et la résurrection de Jésus est un événement dans la vie du Fils de Dieu, fait homme, qui fait qu'il est déjà en quelque sorte passé ailleurs, passé à autre chose, à une vie sur la terre qui n'est plus exactement la sienne. Et le ressuscité n'est pas exactement le même homme qu'avant. Il est passé par la passion et par une sorte d'attraction céleste de son Père. Il a été arraché à la mort. Et se trouvant au milieu des mortels, celui qui est vivant pour toujours est comme définitivement décalé, définitivement différent de ceux qu'il côtoie. Et il y a dans cette ascension non pas une manière pour le Christ de s'évader, de fuir, mais d'être conforme à ce qu'il est devenu, à ce qu'il est éternellement. Il est uni au Père qu'il a attiré à lui depuis la mort pour le ressusciter. Il y a quelque chose qui correspond en fait à ce qu'il est de la manière la plus adéquate. Et cela nous en dit long sur ce que les apôtres vont devoir porter et assumer. Et nous-mêmes, ce que nous devons porter et assumer. Nous devons porter et assumer dans ce monde que, greffés au Christ ressuscité, nous ne sommes plus de ce monde. Que nous sommes dans le monde, mais que nous ne sommes plus du monde. Que nous sommes bien ici avec nos contemporains et dans ce monde présent, avec les obligations de ce monde, avec les tâches que nous avons à accomplir, avec toutes les responsabilités qui sont les nôtres. Mais pourtant, nous avons quelque chose de nous qui n'est plus là. Nous avons quelque chose de nous qui est déjà établi dans la gloire du Père, car nous sommes redevenus par le baptême enfants du Père. Nous le sommes vraiment devenus. Il y a quelque chose de nous qui n'appartient pas totalement à cette terre, même qui lui a été enlevée et qui appartient au Père. Nous sommes citoyens des cieux. Nous avons non pas un pied dans la tombe, mais un pied dans la gloire. Nous avons quelque chose de nous dont nous savons que cela nous porte vers la gloire. Et nous avons besoin de l'entendre parce que nous avons été, on nous a rabâché à longueur de séances de cathé médiocres, que nous étions faits pour être des gens qui vivent comme des êtres solidaires, qui savent bien trier leurs poubelles et puis qui donnent au Téléthon. Alors tout ça est forcément très très important et capital pour le salut de la planète, nous, évidemment, si on peut parler ainsi. Et, mais enfin, fondamentalement, le baptisé n'est pas d'abord quelqu'un qui sait bien trier ses poubelles. Fondamentalement, le baptisé, c'est quelqu'un qui est citoyen des cieux. C'est celui qui a vu la tête du corps monter dans la gloire et il est membre de ce corps. Et il est lui-même en proie à une attraction céleste. Et Jésus nous l'a dit, « Lorsque je serai élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » Et c'est bien tous les hommes qu'il veut attirer à lui. Et nous-mêmes, en quelque sorte, accrochés à lui, comme dans une cordée, nous nous saisissons aussi de ceux qui sont derrière nous, de ceux qui nous sont confiés, non pas simplement de nos enfants, mais aussi de nos contemporains, de nos concitoyens, des vivants comme des morts. Et la prière de l'Église consiste en quelque sorte à mener tous les hommes à être rassemblés dans l'unité des enfants de Dieu dispersés. C'est ce que dit l'Épître aux Éphésiens. Je vous invite peut-être aujourd'hui à relire au moins le premier chapitre de l'Épître aux Éphésiens, qui est un petit bijou, qui est véritablement, là aussi, hein, si vous n'avez pas lu ça avant de mourir, vous ferez beaucoup de purgatoire. Je peux vous promettre que vous seriez objet de scandale. Enfin, on ne peut pas ne pas lire les Épîtres de saint Paul. Alors, l'Épître aux Éphésiens, en un chapitre, vous avez tout, avec une densité incroyable. Nous comprenons que Jésus est élevé au-dessus de tout, et celui qui rassemble tous les êtres visibles et invisibles dans l'unité. Et que notre destinée, c'est après la dispersion de Babel, après la dispersion du genre humain qui est fragmenté et fractionné, la destinée du genre humain est d'être rassemblé, dit saint Paul, sous un seul chef, c'est-à-dire la tête, une seule tête, le Christ, qui monte dans la gloire du Père. Alors, il ne nous appartient pas de savoir, comme dit Jésus ici aux siens, quand est-ce qu'il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Mais il nous appartient de vivre conformément à notre identité, c'est-à-dire de laisser ce lien vivant que nous avons avec celui qui est monté au ciel nous irriguer, que ce lien d'attraction qu'il veut opérer et que nous voulons renforcer en communion à son corps eucharistique et en vivant dans la communion de tout son corps qu'est l'Église, de nous laisser attirer, mais de ne pas considérer que notre sort à nous, c'est de, en quelque sorte de gagner la martingale et d'arriver en haut du mât de cocagne et de prendre, de gagner le gros lot de notre vie au ciel. Non, notre sort à nous, c'est véritablement d'entraîner aussi, d'attirer tous les hommes vers le Seigneur et de permettre que les cœurs entendent cet appel à se laisser rassembler dans l'unité du Père qui veut rassembler ses enfants. Ainsi, frères et sœurs, ce mystère de l'ascension du Seigneur conclut, enfin, ou plutôt accomplit cette parole que nous avions entendue le jeudi saint, au tout début de l'Évangile, à l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père. Ayant aimé les siens, il les aima jusqu'au bout. Et nous aimer jusqu'au bout, pour le Seigneur, c'est précisément nous amener dans la gloire du Père. Vous voyez, le Seigneur nous aimer jusqu'au bout, c'est pas simplement nous donner un petit plus pour que dans notre vie nous soyons un peu plus dans une sorte de bien-être, d'une sorte de zénitude, une sorte de tranquillité sereine et béate. Nous ne sommes pas appelés à être des Bouddhas, nous sommes appelés à être attirés par celui qui est le Fils éternel du Père dans sa gloire. Et le jusqu'au bout de notre existence, ce n'est pas d'être des êtres repus, mais c'est des êtres comblés, ce qui est bien plus, et comblés de la bénédiction du Père, de l'amour éternel du Père. Alors il nous amène, comme nous l'avons entendu, à l'état de l'homme parfait. L'état de l'homme parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude. Et c'est cela dont on parle quand on parle de de la parousie, c'est-à-dire du retour du Christ à la fin des temps, c'est que tous les membres du corps du Christ étant rassemblés, à ce moment-là, le corps a sa stature, aura sa plénitude, aura sa taille, aura son équilibre et sa proportion parfaite. Vous savez que dans l'art chrétien, dans le premier art chrétien, les premiers chrétiens aimaient représenter l'agneau de Dieu avec une grosse tête et un petit corps, pour dire que celui qui est la tête, nous, petit à petit, s'agrège de nouveaux enfants, sanctifie son corps, et le corps se proportionne peu à peu à la tête. Et quand le corps aura atteint sa plénitude, sa proportion parfaite, à ce moment-là, le Père jugera qu'il est temps que le Christ revienne. Et seul le Père sait quelle est l'heure de ce retour glorieux, de cette manifestation glorieuse, lorsque le corps du Christ aura atteint sa stature dans sa plénitude, nous dit saint Paul. Que le Seigneur qui vient maintenant nous visiter eucharistiquement, et qui le fait sur toute la terre, partout et pour tous les hommes, qu'il se saisisse ainsi de nous, qu'il nous cueille au sol pour nous amener dans la gloire. Encore une fois, vous m'entendez souvent le dire, ce n'est pas nous qui prenons le Seigneur dans l'Eucharistie. C'est lui qui nous prend. C'est lui qui nous établit dans notre demeure réelle et éternelle, nous les citoyens des cieux, et qui nous invite à attirer à lui tous les hommes. Amen.